Chapitre 78. Vive l'ampleur. Expliquons maintenant comment manquait le cadavre qui était venu chercher inutilement dans le parc de Viry Salvatore et Monsieur Jacqual. On se rappellera que Salvatore, en sortant de chez ce dernier, avait rencontré, quoique la rigueur du temps ne nécessitât point encore une pareille précaution, un individu engoncé dans une énorme houppelande dont le collet semblait destiné à lui servir de masque. Cet homme, auquel Salvatore n'avait prêté qu'une médiocre attention, avait monté l'escalier derrière lui et s'était fait annoncer sous le nom bien connu de Monsieur Gérard. C'était Monsieur Gérard, en effet. À voir la précipitation avec laquelle il avait arpenté la cour et s'était engagé sous la voûte qui conduisait au cabinet du chef de la police secrète, à examiner le soin minutieux avec lequel il baissait vers la terre la partie de sa figure que laissait à découvert la solution de continuité existant entre son chapeau et le collet de sa redingote, un observateur n'eût pas manqué de tourner la tête avec dégoût en reconnaissant dans cet homme un mouchard dans toute l'acception du mot. Comme nous l'avons dit, on annonça M. Gérard. La porte du cabinet de M. Gérard s'ouvrit et le visiteur s'y engouffra. « Ah !» dit M. Jacqual, « c'est l'honnête M. Gérard. Venez, mon cher monsieur, venez. « Je vous dérange peut-être ?» demanda M. Gérard. « Comment donc, vous me dérangez ? Jamais !»« Vous êtes trop bon, monsieur, » fit M. Gérard. « Il y a plus, j'allais vous envoyer chercher. Vous me dérangez, par exemple, vous, mon féal, mon héros, mon favori. Allons, allons, monsieur Gérard, vous ne dites pas cela sérieusement. Il m'avait semblé que vous étiez debout. Oui, certainement, je viens de reconduire un de vos amis. Un de mes amis, lequel ? Monsieur Salvatore. Je ne le connais pas, dit monsieur Gérard, étonné. « Oui, mais lui vous connaît, j'en ai peur du moins. Et j'ai cru que vous alliez sortir, si bien que vous espériez esquiver notre petite causerie, ingrat. Monsieur Jacqual, voyons, posez votre chapeau, vous avez toujours l'air d'avoir envie de fuir. Là, bien. Et maintenant, asseyez-vous. Où diable trouveriez-vous, cher monsieur Gérard, un plus joyeux compagnon, un plus aimable bout en train que moi, ingrat? Sans compter que, tandis que vous veillez sur le roi, je veille sur vous, moi. Oui, j'allais sortir, en effet. Mais vous voilà, je reste. Sortir, ah bien oui, je sacrifierais mes affaires personnelles les plus intéressantes pour avoir la joie de causer un moment avec vous. Eh bien, que me conterez-vous de nouveau, honnête monsieur Gérard? Peu de choses, monsieur. Tant pis, tant pis. Monsieur Gérard secoua la tête à la manière d'un homme qui dit « la conspiration ne donne pas ». Et mais encore, demanda monsieur Jacqual, on a dû hier vous amener un homme que j'ai fait arrêter devant le café de Foy. Qui faisait-il? Une propagande napoléonienne démesurée. Comptez-moi cela, cher monsieur Gérard. Imaginez-vous d'abord son nom. Je l'ignore, monsieur. Vous comprenez qu'il eût été imprudent à moi d'aller le lui demander. Son signalement. Mais c'était un homme grand, fort, vigoureux, vêtu d'une longue redingote bleue, boutonnée jusqu'au menton, avec un ruban rouge à la boutonnière. Ah, quelque officier en retraite. C'est ce que je me suis dit, surtout en voyant son chapeau à large bord enfoncé sur sa tête et résolument penché sur l'oreille. Pas mal, monsieur Gérard, pas mal pour un commencement, murmura monsieur Jacqual. Vous verrez que nous ferons quelque chose de vous. Continuez. Il entra au café, et sa tournure m'ayant paru suspecte, je le suivis. Bien, monsieur Gérard, bien. Il s'installa à une table, demanda une demi-tasse de café et un carafon d'eau-de-vie, en disant tout haut, « Je ne puis boire mon café qu'au Gloria, moi j'aime le Gloria. » Et il regarda autour de lui pour voir si personne ne lui répondrait. Et personne ne lui répondit. Personne. Alors, pensant qu'il n'en avait pas dit assez, « Vive le Gloria » continua-t-il. « Diable, diable, diable !» fit monsieur Jacqual, « voilà qui est passablement sédicieux. Vive le Gloria, c'est comme si l'on disait « Vive la gloire !»« C'est justement ce que j'ai pensé, et comme sous le gouvernement paternel qui nous régit, il n'y a aucun motif de crier « Vive la gloire !», cet homme me devint tout à fait suspect. « Très bien, brigand de la Loire. » Je m'installai à la table en face de la sienne, résolu à tenir mes oreilles et mes yeux tout grands ouverts. « Bravo, monsieur Gérard. » Il demanda un journal. « Lequel ?» « Ah, je ne sais. Ah, voilà une faute, monsieur Gérard. Je crois que c'était le Constitutionnel. »« C'était le Constitutionnel. »« Vous croyez ?»« J'en suis sûr. »« Si vous en êtes sûr, monsieur Jacal. » Il demanda le Constitutionnel. « Continuez. » Il demanda le Constitutionnel, mais je vis bien que c'était par pure forfanderie, car, soit hasard, soit dédain, il le tint constamment à l'envers, jusqu'au moment où un de ses amis entra dans le café. « À quoi vîtes-vous que c'était un de ses amis, monsieur Gérard ?»« À ce qu'il était vêtu exactement comme lui, des pieds à la tête, seulement il était infiniment plus râpé. » Retour du champ d'asile. Continuez, monsieur Gérard. C'était son ami, je n'en doute plus. La chose est d'autant moins douteuse que celui qui venait d'entrer alla droit à celui qui était assis et lui présenta la main. Bonjour, dit le premier d'un ton rude. Bonjour, répondit le second du même ton. Tu as fait un héritage? Moi? Oui, toi. Pourquoi cela? Parbleu, te voilà tout flambant neuf. Ah, c'est mon épouse qui m'a équipé ainsi pour ma fête. J'ai cru qu'on avait reçu la paix. Non, et il faudra que nous continuions à faire encore pendant quelque temps, je crois, crédit à notre correspondant de Vienne. Le duc de Reichstadt, dit monsieur Jacal. Ah, c'est ce que je me suis dit, répliqua monsieur Gérard. « Tu sais, continua le premier militaire, que le susdit correspondant de Vienne a failli venir à Paris. »« Je le sais, répondit l'autre, mais il a été empêché. Ce qui n'est pas différé n'est pas perdu. »« Monsieur Gérard, que disiez-vous donc? Pas grand-chose, mais je trouve que c'est déjà beaucoup ce que vous m'avez dit là. Et quand il n'y aurait pas davantage ?»«
Il y en a davantage, monsieur. »«
Bon, poursuivez, poursuivez, monsieur Gérard. » Et en signe de satisfaction, M. Jacal tira sa tabatière et se bourra le nez de tabac. M. Gérard reprit. Le premier venu continua. Une belle redingote, ma foi, et il passait sa main sur le drap. Très belle, répondit orgueilleusement le second. Un poil magnifique. De l'Elbeuf, tout simplement. Un peu large, peut-être. De quoi un peu large? Je dis ta redingote, je la trouve un peu large pour un soldat. Ce qui prouve bien, continua M. Jacal, que c'était un militaire et que vous ne vous étiez pas trompé, M. Jacal.
Pourquoi un peu large, répondit l'officier. Les habits ne sauraient jamais être trop larges. Je suis pour toutes les grandes choses, moi. J'aime tout ce qui est large, moi. Vive l'empereur.
Vive l'empereur? Comment vive l'empereur à propos d'une redingote? Je sais bien qu'il n'y a pas grand rapport, répliqua M. Gérard un peu embarrassé, mais j'ai entendu vive l'empereur.
M. Jacal aspira bruyamment une seconde prise.
Mettons qu'il ait crié vive l'empereur, dit-il.
Oui, mettons cela, dit M. Gérard, que la discussion embarrassait visiblement.
Vous comprenez qu'en entendant pousser ce cri séditieux qui fit retourner plusieurs personnes, je suis sorti du café.
Je comprends.
À la porte, je trouvai deux agents. Je leur signalai mon homme et je ne m'éloignai que lorsque je les vis lui mettre la main sur le collet.
« Bravo, monsieur Gérard, mais c'est étonnant, je n'ai point vu votre homme, et il ne m'a pas été fait de rapport.
Oh, »« Je vous affirme pourtant que l'homme a été arrêté, monsieur Jacal. »
Monsieur Jacal sonna. L'huissier parut. « Faites appeler Gibassier, » dit monsieur Jacal.
L'huissier sortit. 5 minutes s'écoulèrent, pendant lesquelles monsieur Jacal fouilla tous les dossiers de son bureau.
« Je ne vois rien, » dit-il, « absolument rien. »
L'huissier rentra.
« Eh bien, » demanda M. Jacal, « M. Gibassier attend. »«
Qu'il entre. »
« Il dit que vous n'êtes pas seul.
»« C'est juste. M. Gibassier est comme vous, M. Gérard, un homme modeste et qui n'aime pas à être vu. Si on l'en croyait, il en serait de lui comme de la violette. Il ne se révélerait que par son parfum. Passez dans cette chambre, M. Gérard. »
M. Gérard, qui en effet ne se souciait pas plus d'être vu que M. Gibassier, passa promptement dans la chambre voisine, dont il referma avec soin la porte sur lui. « Entrez, Gibassier !» cria M. Jacqual, « je suis seul !» Gibassier entra, le visage souriant, comme toujours. Ah, « Qu'est-ce à dire, Gibassier ?» dit M. Jacqual, « il se fait des captures importantes et je n'en sais rien. » Gibassier tendit le cou et ouvrit les yeux comme un homme qui dit « expliquez-vous ». Hier, continua M. Jacqual, on a arrêté un homme qui avait crié « Vive l'Empereur !» Où cela, M. Jacqual ? Au café de Foix, M. Gibassier. Au café de Foix, ce n'était pas « Vive l'Empereur !» que cet homme avait crié. Qu'avait-il donc crié ? C'était « Vive l'Empereur !» Vous trompez, M. Gibassier. Me permettez-vous d'affirmer que je suis sûr de ce que j'avance ? « Et comment pouvez-vous être sûr de cela ?»« C'était moi, » dit Gibassier. M. Jacqual releva ses lunettes et regarda Gibassier avec un de ces sourires silencieux qui lui étaient habituels. « Ah, voilà ce que c'est, » dit enfin M. Jacqual, « que d'avoir une double police. Il ne faut plus qu'une pareille mystification se représente. » Et allant à la porte de la chambre où s'était enfermé M. Gérard, « Hé, M. Gérard, » dit-il, « vous pouvez rentrer. » « Vous êtes donc seul ?» demanda M. Gérard à travers la porte. « Seul ou à peu près ?» répliqua M. Jacqual. M. Gérard rentra avec sa timidité habituelle. Aussi, en apercevant Gibassier, fit-il un pas en arrière. « Oh » dit-il, « qu'est-ce là ?»« Monsieur ?»« Oui, oui, monsieur. Vous le reconnaissez ?»« Je crois bien. » Puis, se penchant à l'oreille de M. Jacqual, « c'est mon officier du café de Foix. » M. Jacqual prit M. Gérard par la main. « Ah, cher M. Gérard, dit-il, je vous présente M. Gibassier, mon sous-chef de brigade. » Puis, s'adressant à Gibassier, « Mon cher Gibassier, continua-t-il, je vous présente M. Gérard, un de nos agents les plus dévoués. » « Gérard, » fit Gibassier. « Oui, l'honnête M. Gérard de Vendre, celui que vous savez. » Gibassier s'inclina avec un certain air de respect et sortit presque à reculons. « Comment, celui que vous savez ?» demanda M. Gérard en pâlissant. « Monsieur Gibassier, c'est donc tout, mon cher Monsieur Gérard !» L'assassin devint livide. « Mais que cela ne vous inquiète aucunement, » dit M. Jacqual. « Gibassier est un autre moi-même. » « Monsieur, » balbutia l'espion, « pourquoi m'avez-vous présenté à cet homme ?» « D'abord parce qu'il est bon de se connaître quand on est engagé dans le même régiment. » Et puis, avec une voix dont chaque syllabe s'enfonça jusqu'au fond du cœur de M. Gérard, « Ensuite, » ajouta M. Jacqual, « n'est-il pas important qu'il vous connaisse pour vous faire relâcher dans le cas où quelque maladroit vous arrêterait à votre tour ?» À l'idée qu'il pouvait être arrêté, M. Gérard tomba dans le fauteuil à la Voltaire de M. Jacqual. Mais M. Jacqual n'était point susceptible, il laissa M. Gérard sur son trône et s'assit en face de lui sur une simple chaise.